Je voulais essayer de remettre en perspective finalement cette notion de patrimoine maritime depuis une quarantaine d'années. Alors, c'est un propos ambitieux, mais rassurez-vous, je vais faire court. D'une part, par engagement personnel, puisqu'il se trouve que pendant un certain nombre de décennies, j'ai été associé à cette démarche patrimoniale, d'une part en tant que directeur d'une structure qui s'appelait le CRECET, qu'on a un peu maintenant oublié, puisqu'elle a été fondue dans une institution que je dirige, qui est la Fabrique de patrimoine en Normandie. Et en tant que directeur du CRECET, j'étais aussi à l'époque ethnologue régional auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. Un dispositif qui disparaît avec moi. Je crois que je suis le dernier ethnologue régional à avoir existé. Donc, vous avez du patrimoine vivant devant vous. C'est toujours une perspective intéressante. Voilà, donc, et puis je suis extrêmement content de parler, de faire sans doute ma dernière intervention publique de ma carrière, puisque c'est un secret de Polichinelle, donc je pars en retraite à la fin de cette année, et je suis très content de faire cette dernière intervention à Cerisy, où j'ai passé quelques bons moments, un des lieux les plus sympathiques qui soient dans notre belle région. Alors, mon propos est un peu. Effectivement, j'ai essayé de le structurer, mais plus les communications avancent, plus je me dis que ce n'était pas du tout la bonne structuration. Donc, ça va être un peu au fil de l'eau, mais vous m'en excuserez. J'espère qu'on en tirera quelque chose, et du moins que ça servira pour la démarche patrimoniale en région, et notamment la prise en compte de ce patrimoine maritime. En fait, je m'appuie aussi sur un document. Alors, j'étais très fier de moi hier soir quand j'ai tapoté sur Internet définition du patrimoine maritime, parce que je me suis aperçu que la première définition qui remontait, c'est celle que j'avais écrite en 2005 avec ma collègue Nathalie Lemarchand dans un document qui avait été publié pour le ministère de la Culture, dans un dispositif qui s'appelait Ethnoport, qui était une espèce de melting pot des actions autour du patrimoine ethnologique. Et j'avais écrit un truc qui s'appelait le patrimoine maritime en Basse-Normandie. Je suis désolé, mais il n'y avait pas encore la fusion des régions à l'époque. Réflexion sur 2 décennies d'actions publiques et privées. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que finalement, et c'est un truc écrit en 2005, ben finalement, ça restait très, très valable encore aujourd'hui. Donc, le document est toujours en ligne, donc vous pourrez le retrouver aisément. Je crois que ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que le patrimoine maritime, en tant que catégorie patrimoniale, ça émerge assez tardivement, hein, plutôt dans la décennie 70, pour prendre corps vraiment dans les années 80. Plus tardivement d'ailleurs que le patrimoine rural, qui lui émerge vraiment en tant que revendication, en tout cas, et comme action culturelle dans les années 50, puis l'industriel. Aux alentours de la crise des années 1974, où effectivement notre tissu industriel est fortement bousculé et la société qui va avec, et donc engendre une dynamique, même si tout cela s'étale de pas mal d'années. La revendication patrimoine maritime, elle émerge vraiment fin des années 70, début des années 80, bon, un peu sur les régions voisines, hein, en Bretagne, souvent d'ailleurs dans une perspective, alors comment dire, girondine. Un peu anti-étatique d'ailleurs, souvent, on était très très militants, parce qu'il ne fallait pas être dépossédé de son patrimoine, il y avait une revendication territoriale assez forte. Et ça émerge aussi, c'est là, c'est pas un mouvement, je dirais, qui émerge tout seul, c'est qu'aussi dans ces années-là, dans les années 70, apparaissent les premiers schémas d'aménagement du littoral. Je me rappelle en Normandie, ça doit être 75 ou 76. En Haute-Normandie, j'imagine qu'il y a eu un schéma similaire. Et donc, il y a vraiment une vraie préoccupation des questions littorales après une première décennie d'aménagement fort du littoral, notamment porté par une dynamique touristique. C'est à peu près cette époque-là qui émerge, pour ceux qui connaissent, les très, très bel héritage patrimonial que nous avons sur des côtes comme Courseulles-sur-Mer, etc. Donc, avec des immeubles plutôt intéressants. Et donc, la préoccupation patrimoniale, le besoin d'aménager le littoral apparaît à ce moment-là. Et par ailleurs, il y a un deuxième phénomène qui est extrêmement important pour cette dynamique, et notamment pour le patrimoine lié à la pêche, c'est les restructurations du monde de la pêche avec les plans, je ne sais pas si on se souvient, on avait les plans Mélic qui a sorti de façon assez violente et très forte, bien que soutenue, un grand nombre de navires de pêche, des flottes avec une diminution drastique des puissances embarquées. Alors, avec tout ça, tout un marchandage, des armateurs, etc. Enfin, un truc qui est toujours un peu compliqué. Il y en a qui s'en sont très bien retirés, d'ailleurs, de cette affaire-là. Mais du coup, un souci de conservation patrimoniale, puisque sont sortis de la flotte de pêche tout d'un coup, en très peu de temps, un très grand nombre de bateaux issus des années 50. Donc tous les bateaux, finalement, issus de la reconstruction des flottes de pêche après-guerre, voilà, se sont retrouvés abandonnés, menacés de destruction, etc. Et donc cela, ça a provoqué une prise de conscience un peu débridée par certains côtés d'un certain nombre de gens et de beaucoup d'acteurs privés et associatifs. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est comment on définit le patrimoine. Donc moi, dans mon esprit, il faut bien séparer ce qui est la connaissance scientifique des choses, des recherches universitaires, d'une approche patrimoniale qui, pour moi, est le produit d'une appropriation par tout ou partie d'une communauté et une démarche de construction, plus une démarche de construction sociale, même si, évidemment, il y a une interaction forte. Alors, en plus, tous les acteurs patrimoniaux que nous sommes, les acteurs scientifiques que nous avons à cœur d'essayer de rabouter la science et la pratique patrimoniale, mais il faut bien se rendre compte que le patrimoine n'est pas forcément le produit de la science. C'est le produit de ce que l'on a envie de garder, de ce que l'on veut promouvoir. Alors, moi, je le définis. Alors, c'est la fameuse définition qu'on retrouve sur Internet. Alors, maintenant, je me dis qu'elle n'est pas très bonne, mais je vais quand même la lire, parce que je trouve que je la ferai évoluer si c'était aujourd'hui qu'elle s'est écrite. Ensemble des éléments matériels et immatériels, on l'a déjà évoqué ce matin, liés aux activités humaines, contemporaines, ou qui ont été... Alors, contemporaines, je viens de le rajouter, parce que je pense que c'est très important. Et ou qui ont été développés dans le passé, récent ou plus lointain, en relation avec les ressources et les milieux maritimes. Ils sont reconnus par les groupes sociaux à différentes échelles géographiques comme étant leur héritage propre en totalité ou en partie constitutif de leur identité et par voie de conséquence comme étant dignes d'être transmis aux générations qui leur succéderont. Globalement, c'est la même définition que touchant du patrimoine. Il ne faut pas on retrouve là les éléments, pour ceux qui s'intéressent à la convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, globalement, vous retrouvez ces éléments-là ces éléments de définition. Donc, définition partagée, mais qui n'exclut pas un certain nombre de particularismes du monde maritime. D'abord, nos 600 km de côte, c'est pas linéaire. Ce sont des faciès extrêmement diversifiés qui ont produit chacun en fonction des configurations géographiques, de l'éloignement des grandes voies de circulation, c'est pas un territoire qui est homogène. Donc chaque endroit peut produire des éléments dignes de patrimoine qui ne sont pas forcément liés entre eux. Ce qui explique d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des histoires de villes. C'est que je pense que chaque territoire littoral a une histoire particulière. Ce qui explique, en partie, que dire que c'est une histoire régionale, c'est déjà une forme d'abstraction, une forme de volonté. Il faut arriver à rabouter des éléments, des particularismes locaux. La nature du milieu, contrairement à la terre ferme, quoique ça bouge, c'est un milieu extrêmement mouvant. L'espace côtier n'est pas figé, et je dirais que même quand on veut le garder maritime, par cette image qu'on peut avoir, j'ai toujours l'idée du chantier du Mont-Saint-Michel. Rendre le caractère maritime au Mont-Saint-Michel, c'est quand même intellectuellement intéressant, parce qu'on a quand même dépensé des sommes considérables pour lutter contre la nature et pour finalement une vision, un imaginaire qui nous portait et qui disait « le mont doit être entouré d'eau ». Enfin, c'est quand même une projection culturelle particulièrement intéressante. Des espaces donc côtiers non figés, des mouvements naturels qui sont parfois amplifiés par l'homme. Hein. C'est vrai que la poldérisation du Mont-Saint-Michel avait aussi contribué à sa modification. Des mouvements qui sont parfois très rapides, qui engendre disparition d'activités, voire création de nouvelles activités qui, parfois en quelques décennies, peuvent être complètement identitaires. Actuellement, on se dit l'huître, ben oui, l'huître, c'est évident en Normandie, notamment sur la côte ouest du Cotentin. En gros, ça s'est développé il y a moins de 50 ans. Et en moins de 50 ans, c'est devenu quelque chose de totalement identitaire. Tout le monde penserait que c'est quelque chose de naturel. Alors non, ça n'est pas naturel. L'espace, la particularité aussi du patrimoine maritime, et notamment sur les espaces portuaires, c'est que ce sont des espaces extrêmement contraints, où le terrain est cher, et donc la pratique de conservation n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire que le port du Havre, le port de Cherbourg, le port de Caen, l'objectif, c'est de servir de port, c'est pas de conserver du patrimoine. Et la difficulté, c'est comment ces espaces s'adaptent en permanence à des activités nouvelles. Donc, ça a un impact assez fort sur le patrimoine. Si je prends aujourd'hui la gare maritime de Cherbourg, mais rappelez-vous, dans les années 60, 70, 80, 90, les longs débats, fallait-il la conserver ? Alors que c'est quand même le monument, je crois, en Europe, qui a la plus grosse surface de toiture à l'époque. Attends, c'est quand même un monument exceptionnel. L'enjeu, c'était de détruire ce patrimoine, parce qu'on n'avait pas une valeur ajoutée non plus. Enfin, on ne le pensait pas comme patrimoine, on le pensait comme outil portuaire dont la fonction était limitée. On a Benjamin a cité ce matin l'écluse système des écluses du bassin des chasses de Honfleur. Pendant des années, l'administration et même tout le monde pensait qu'il fallait supprimer le bassin des chasses, tout comme le pont Colbert de Dieppe. C'est tout récemment seulement que finalement on trouve un dispositif et qu'on prend conscience de la valeur de ces éléments-là. Mais c'est pareil sur le pont, le fameux pont Pegasus Bridge de Bénouville, qui a fait finalement qu'on a conservé, mais en le déplaçant, parce que l'idée, il n'était pas compatible de conserver ce patrimoine avec le trafic du port de Caen. Et puis même sur des sites, alors nos amis de Fécamp ne sont pas là, mais le temps qu'on a mis pour réaliser ce fabuleux musée des pêcheries à Fécamp, c'est dans un bâtiment qui était voué à la destruction, qui ne s'est imposé que comme patrimoine que très très récemment. Donc on est quand même dans des choses où les contraintes qui pèsent sur ces sites font que la patrimonialisation ne s'impose absolument pas du tout et que c'est un très très long chemin. Je vais vous en donner quelques exemples. Les littoraux sont également soumis, on le sait bien, et particulièrement à proximité des grandes agglomérations. Je le mesure maintenant tous les jours depuis que j'ai pris de nouvelles fonctions. Donc ces littoraux sont soumis à de forts enjeux urbanistiques et touristiques qui ne sont pas toujours compatibles avec le développement des activités. Voire les projets de développement portuaire se heurtent à des oppositions féroces. On peut prendre le cas du grand projet qui, alors je ne sais pas, Brigitte pourra nous le dire, mais le port de Granville, il y a eu des très très gros projets d'aménagement de ce port qui ne se sont pas faits. À Caen, dans la banlieue proche de Caen, Hérouville-Saint-Clair, les derniers aménagements d'activités maritimes proposées par PNA se sont heurtés, et notamment c'était une mini plateforme pour conteneurs en complément du port de Havre, etc., donc en cœur de ville, en cœur d'agglomération de Caen, s'est opposé, et ils ont eu gain de cause, aux nouveaux habitants qui se sont installés sur les berges du canal et qui considèrent que l'espace portuaire de Caen doit rester un aimable plan d'eau et pas du tout un lieu d'activité maritime. Donc des conflits d'usage, des conflits de perception qui sont extrêmement importants. Les espaces et les ports préservés, et là on a un très bel exemple de Honfleur ce matin, sont finalement ceux qui ont pu sortir à un moment ou alors qui ont dégagé leurs vraies activités maritimes en dehors de l'espace urbain et de l'espace historique. Donc en fait, ce sont en réalité, malheureux de le dire, les lieux maritimes qui ont perdu leur utilité fonctionnelle. Les plus beaux exemples, ça va être Harfleur, par exemple. Finalement, on a encore la trace urbaine, le port, mais il n'y a plus de port, il n'y a plus rien. Ou alors des ports qui n'ont pas su évoluer, ou qui n'ont pas, enfin, qui n'ont pas su évoluer, ou que les trafics ont déserté, notamment, je pense, tous les havres de cabotage de l'ouest cotentin. Finalement, si Regniéville est resté à l'état de Regniéville, c'est qu'il n'y a plus d'activité maritime, il n'y a plus de cabotage, il n'y a plus rien. Donc, on n'a pas eu lieu d'aménager. Donc, en fait, l'adaptation permanente du monde maritime, la modification perpétuelle des activités, font que c'est un monde qui change en permanence. Même quand on nous parle d'activité traditionnelle, souvent l'activité traditionnelle, elle dure une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années au maximum. On mythifie aussi sur certaines activités. Par exemple, on nous parle à Granville, à Fécamp, le maître mot, alors c'est pas Le Havre avec ses transatlantiques, le maître mot, c'est l'histoire de la pêche à la morue. Le patrimoine et l'histoire se mélangent puisque finalement on refait une construction historique à partir de une construction mentale à partir de choses qui ont disparu depuis longtemps. Et puis un élément important sur le patrimoine maritime qui me donc on pourra et on se fera plaisir d'ailleurs puisqu'on on est tous convaincus que la Normandie est la première région maritime de France, mais en réalité quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que l'essentiel des aménagements littoraux, l'essentiel de ce qu'on considère nous comme patrimoine, même dans son acception bâtie, mais finalement est sorti de l'histoire nationale. On regarde les fortifications extrêmement présentes dans tout le long de nos côtes, puisque évidemment nous sommes en face des anciens ennemis, mais qui sont, on va dire, les fortifications Vauban, tout le dispositif de navigation et de surveillance maritime, parce qu'on a quand même une des plus belles collections de phares de France, avec des phares du 18e au 20e siècle. Mais finalement, tout cela a été construit et aménagé à la fois par le pouvoir national, pour le pouvoir qui gouvernait et qui avait pris le contrôle d'ailleurs complètement depuis le milieu du XVIe siècle de nos littoraux, y compris des personnes qui y travaillaient, ce qui est quand même intéressant d'ailleurs dans la pensée dont on imagine, la façon dont on imagine les identités maritimes. Et finalement, même les grands ports, le port du Havre est une création non pas des Normands en tant que tels, mais une création du pouvoir national pour alimenter et pour servir des ambitions qui dépassaient largement notre région. Même ce contrôle du pouvoir qui s'exerce encore aujourd'hui, et c'est pas un jugement de valeur, s'exerce encore aujourd'hui sur nos littoraux, peuvent avoir que certaines traditions techniques, certaines façons d'utiliser le littoral sont en voie de disparition parce qu'elles se heurtent à un certain nombre de réglementations, et j'en reviendrai pour preuve, et Karine, si vous l'interviewez, pourrait vous parler de cela. Par exemple, les pêcheries, le dispositif de pêcherie en pierre et en bois qui peuplait le nord cotentin est en voie de disparition, de finir de disparaître. Alors, il y a 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus la date, Karine, c'est quand on a fait une fiche d'inventaire, d'ailleurs en travaillant avec les archéologues et Cyril Billard sur le sujet. D'ailleurs, on avait sorti un joli bouquin sur ce sujet. Karine avait fait une enquête et nous avons fait une fiche d'inscription à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel national. À l'époque, il y avait 5 pêcheries, je crois. Il n'y en a plus que 2 en activité, 5 ans après. Donc on est du patrimoine très sensible et on n'arrive pas à avoir une approche concertée, tant de l'administration tutélaire, la DDTM, enfin, ou la Ministère des Affaires maritimes, et de la culture sur ces questions-là et sur le maintien de ce type d'héritage. Donc on voit bien que les choses... que le littoral, c'est aussi des sujets très tendus, très conflictuels, avec énormément de conflits d'usage et de gens qui se heurtent. Suffit de voir certaines plages à vocation balnéaire. entre la notion de propreté de la plage, de perception de la propreté de la plage. Finalement, je vois dans ma commune, il y a une partie des gens qui ne supportent pas d'avoir des algues en train de mourir sur la plage, et des autres qui voudraient laisser pousser l'herbe. Et vous pouvez pas, ça se heurte à des conceptions, il y a des enjeux différents des personnes. Voilà. Et donc tout cela est un peu commun à l'ensemble des régions maritimes. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi, finalement, en Normandie, la notion de... En 40 ans, finalement, on a énormément de mal à s'approprier ce patrimoine maritime, en dehors de toutes les difficultés que je viens de... Pourquoi ? Et on voit bien que l'émergence des projets dont on a parlé ce matin, que ce soit à Honfleur, que ce soit à Dieppe, la prise de conscience de l'intérêt de l'identité maritime et du patrimoine, finalement, elle est très très récente, alors que le mouvement a plus de 40, presque 50 ans maintenant. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement... Cette appropriation, en tout cas par au moins les autorités publiques, est extrêmement complexe. Alors il y a des tas de raisons, sur chaque endroit c'est différent. C'est vrai que peut-être que sur Cherbourg, la prééminence très longue et très forte de pouvoir militaire sur l'ensemble des installations portuaires a peut-être freiné aussi cette prise en compte patrimoniale. Sur d'autres, on voit qu'au Havre, peut-être, que, et là c'est aussi intéressant, quelqu'un l'a souligné ce matin, finalement, il n'y a pas de musée maritime véritable au Havre. Enfin, il y a un petit musée d'histoire maritime, mais depuis des années et des années, alors que c'est le principal port de commerce, on n'a pas de peu de lieux de valorisation. Donc cette mayonnaise est extrêmement difficile à prendre. Alors là, je suis un peu négatif, parce qu'il y a quand même de belles réussites, même si on peut s'interroger. Des projets purement consacrés à la vie maritime, finalement, il y en a très très peu. Il y a le plus exemplaire, mais je laisserai Alain Talon en parler. C'est peut-être Tatillou, dont la vocation initiale a été, mais ça a évolué en plus, la vocation a été initiale d'un lieu consacré à la culture maritime, ce qui est pratiquement le seul. Par contre, d'autres, et peut-être Brigitte pourra en parler, mais d'autres, je disais, le premier dossier de ma carrière, c'est le projet de port maritime, de musée maritime de Granville. C'était en 1984, on en parle toujours, mais je pense que je laisserai Brigitte en parler aussi. Donc on voit bien que c'est quand même extrêmement compliqué. Et malheureusement, je trouve que la plupart du temps, ces actions, même si elles ont désigné comme ethnographiques, s'intéressent plus à des objets historiques, éventuellement support d'un discours d'ethno-histoire, mais s'intéresse rarement à la vie culturelle contemporaine et à la vie des communautés qui sont directement concernées par le monde maritime. Je dirais que un des exemples, c'est que le musée de synthèse régionale à Caen, le musée de Normandie, a dû avoir consacré sa première exposition vraiment sur une thématique fortement maritime et portuaire en 2005, à la suite des travaux qu'avait mené Karine Le Petit sur les communautés portuaires de Caen et puis de Cherbourg. Donc c'est quand même extrêmement tardif, cette prise de conscience de l'intérêt de du sujet et de ce patrimoine. Alors, je crois aussi que la mer, c'est un espace, alors c'est à la fois à la faute du tourisme, certainement, c'est qu'on l'activité balnéaire a généré aussi ses propres imaginaires. Et c'est vrai qu'à la limite, vous demandez à un enfant de dessiner un bord de mer, il va vous dessiner un phare. On sait très bien qu'aujourd'hui, quasiment, on pourrait éteindre tous les phares, que même si on laisse des crosses, parce que vous avez quelqu'un qui est en train de se noyer, il faut appeler le cross qui est à Cherbourg ou dans la Hague pour déclencher le bateau de secours qui est à 500 mètres. Mais en fait, là, on est aussi dans l'imaginaire, parce que le cross, il pourrait être installé n'importe où en France. Parce que le gars, dans sa vigie du cross, il ne voit pas le gars qui est en planche à voile en train de se noyer. Il ne sait même pas où il est. Donc, c'est ainsi un imaginaire qui fait. Et l'enfant, si on lui demande de dessiner un bord de mer, il dessine un phare et une plage. C'est immanquable. Donc, on est vraiment sur des éléments de patrimoine intéressants. Et aussi le mythe d'un certain nombre de types d'hommes. Je viendrai. Alors, ça, c'est aussi. Le mythe, c'est, qui rejoint aussi le mythe du bon sauvage, mais je vois encore ces cartes postales début du siècle avec type de sauveur normand, de sauveteur normand, avec ses médailles, tout ça. Donc on a aussi des imaginaires comme ça qui portent la vision patrimoniale. C'est vrai que finalement, un certain type de patrimoine est mis en avant et a une forte valeur ajoutée. Alors que finalement, il est aujourd'hui, constitue des éléments marginaux du patrimoine. Je regarde l'heure, je ne sais pas où j'en suis. Oh, c'est pas mal. Voilà, et puis, même malgré ça, finalement, et Benjamin l'a bien souligné ce matin, finalement, même les plus hauts lieux touristiques, type Honfleur, port fossile, je vais s'exprimer ainsi. Et finalement, c'est seulement maintenant, avec ce projet lieutenance, que l'on intègre cette dimension maritime sur laquelle on a tous un peu travaillé. Ce qui est la quintessence du patrimoine maritime, évidemment, vous le savez, c'est le bateau. Et là, c'est particulièrement intéressant ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, depuis les années 70, effectivement. La protection du patrimoine naval a essentiellement été l'affaire d'actions privées ou de type associatives. Extrêmement compliqué à mettre en œuvre, d'abord parce que ça a été souligné ce matin, c'est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux parce qu'évidemment tout le monde a sollicité les finances publiques de la région ou des régions à l'époque, des départements, des collectivités locales, etc. Avec une difficulté conceptuelle extrêmement forte. Finalement, quels sont les types de bateaux qui ont été sauvegardés ? C'est plutôt les petits bateaux à voile, accessibles au portefeuille des associations, généralement, soi-disant représentatifs d'une époque, d'un pays, alors avec des problématiques d'appropriation. La Vaclotte, qui est une chaloupe quand même, il faut le dire, elle est du Cotentin. Donc c'est quand même une identification au territoire extrêmement forte de ce patrimoine, ou le picoteux de la côte de Nacre, ou le voilà. Donc une identification du territoire à un type de bateau. D'ailleurs, en général, quand on venait vous voir, c'est j'ai la dernière Vaclotte du Cotentin, ou je détiens le dernier picoteux, et donc vous devez forcément me financer à ce titre-là. Voilà, donc une problématique qui, la façon dont la sauvegarde de ce patrimoine a été faite, c'est qu'on a pris, on a nié l'existence même des bateaux, puisqu'on a pris le bateau uniquement, et ça, alors là, c'est un peu mon côté anthropologique qui parle, c'est-à-dire qu'on a pris le bateau uniquement comme objet, et pas comme étant un ensemble réceptacle d'équipage, d'outils, de façon de travailler, etc. Ne reste que l'objet. La reste, à tel point, je vais dire, alors c'est, les gens de la branche ne vont pas apprécier, mais ce superbe voilier qui est le Marité, qu'on nous vend comme étant un Terre-Neuve, je ne vois pas en quoi c'est un Terre-Neuve. Il n'y a aucun équipement d'un Terre-Neuve dessus. Alors, il faut dire qu'il n'y avait pas de bateau typique de Terre-Neuve. Tout bateau capable de traverser l'Atlantique, d'arriver à peu près sain et sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur les bancs de Terre-Neuve, et de revenir, oui, parce que ça, il fallait revenir, exactement, était à Terre-Neuve. C'est l'équipement de bord qui faisait que c'était à Terre-Neuve. C'est parce qu'on avait des Doris dessus, parce qu'on avait des gars, des chaloupes, enfin, et des équipements qui font ça. Voilà, donc on vend du mythe et on requalifie. Après, une grande sélection, c'est-à-dire qu'on a imaginé, je dirais que même dans mon petit rapport de 2005, je le dis, c'est l'invention du vieux gréement, puisque la plupart des bateaux qui ont été sauvegardés dans cette période, je ne dis pas que c'est mal, hein, parce que ça remplit ses fonctions touristiques et ses fonctions, mais d'un point de vue sur le fond... Finalement, on est allé jusqu'à transformer des chalutiers en vieux gréements ou à redoter de gréements des bateaux qu'ils n'ont jamais eu quand il travaillait en tant que navire de pêche. J'ai deux exemples. Le Franck Yannick, qui est un chalutier à chalutage latéral, pour ceux à qui ça dit quelque chose, qui est certes à une forme héritée des formes de voilier d'avant-guerre, mais a été construit dans les années 50. Le Franck Yannick est devenu la Grand Copaise. Rien à voir, superbe bateau, c'est vrai que c'est un beau voilier, mais rien à voir d'un point de vue historique, puisqu'il a été dépouillé complètement de sa propre histoire. Donc du coup, il revit une autre histoire. Et le plus significatif, ça sera le Charles-Marie, qui est un chalutier, lui pareil, des années 50, qui a été entièrement gréé. Je me demande quand même, ça ne doit pas être quand même un fin voilier, quand même. C'est un peu lourd. Voilà, donc une sélectivité, un imaginaire qui supposait que le patrimoine maritime était forcément des navires à voile, et que sa seule fonction, c'était celle-là. Alors, il y a quand même quelques cas, il faut quand même le signaler, on en parlait, je ne sais plus avec qui j'en parlais ce matin, avec la collègue de la DRAC, par exemple, l'initiative des Cherbourgeois autour du bateau Le Jacques-Louis, qui est une entreprise extrêmement courageuse. Jacques-Louis, c'est un chalutier construit dans les années 55-57, je ne sais plus exactement, donc un très gros bateau, hein, puisqu'il fait 23 mètres, donc c'est ou 22 mètres, je ne sais plus, donc c'est un gros navire de pêche, complètement représentatif de cette flottille cherbourgeoise dans les années reconstruction après-guerre. C'est le seul navire qui subsiste des chalutiers de cette époque-là, pratiquement en France aujourd'hui. Donc on a une sélectivité de l'histoire. Alors c'est très très compliqué, parce que c'est plus sympa d'emmener les touristes se balader sur un voilier dit de travail que de faire des ronds dans le port de Cherbourg qui a pris au prix de la tonne de gasoil. C'est très 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 onéreux. Voilà, mais c'est un parti pris extrêmement courageux d'un point de vue d'un point de vue du patrimoine, de s'emparer de ce type d'objet. Alors vous pourrez parler de beaucoup sur cette question-là, c'est-à-dire que je pense que le patrimoine, il n'est pas hors du temps. Il est dans notre temps. La perception qu'on a du patrimoine dans les années 70-80 n'est pas du tout la même que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rejoindre des préoccupations environnementales, on va s'intéresser à la façon de produire, nos centres d'intérêt évoluent, et le patrimoine, la façon dont on aborde le patrimoine évolue en permanence. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à l'échelle des 4 à 5 décennies, on a un bilan qui est finalement sur la Normandie relativement modeste, même si on sait et même si on a révélé tous nos potentiels. On connaît, nos potentiels patrimoniaux sont énormes sur notre région. Parfois, on ne fait pas le lien entre les choses. Moi, je pense qu'il faut avoir des thématiques très, très transversales. J'en ai déjà discuté avec Alain Talon, notamment sur les problématiques fortification Vauban. Moi, je pense que c'est une thématique qu'il faut relier au mur de l'Atlantique. C'est la même histoire, c'est la même chose, c'est la frontière fermée. Et il faut relier ça aussi au problème de la fermeture des ports actuels. C'est-à-dire un gros problème culturel. On ne peut plus. Le public n'accède plus au cœur des ports comme s'il était encore il y a 10-15 ans. On pouvait aller jusqu'au quai, regarder ce qui se passait, etc. On n'accède plus pour des questions sécuritaires. Mais c'est aussi la même question. Et je pense que la fabrique de patrimoine, après mon départ, continuera à travailler sur ces questions-là. Je crois que Karine est en train de réélaborer un projet sur la question du littoral et du littoral frontière. Mais la question des migrations actuelles, il faut se la poser et il faut se rappeler que le contrôle anglais qui exerçait chez nous, c'est le même que le contrôle américain était exercé à la gare maritime de Cherbourg où tous les migrants se présentaient. C'est pas une question nouvelle. Donc il faut, je crois, arriver à avoir des thématiques transversales. Le littoral frontière, le littoral ouvert, les problèmes des migrations, tout ça font partie des questions patrimoniales que l'on doit se poser et qui me semblent être des enjeux importants. S'intéresser aux métiers portuaires d'aujourd'hui. Alors, c'est déjà... faut rappeler que les ethnographes, de la fin du 19e siècle, ils travaillaient sur leur propre... sur le contemporain. C'est pour ça que c'est devenu du patrimoine pour nous. Il faut aussi... ou patrimoine historique. Il faut aussi travailler sur les métiers contemporains, sur les identités professionnelles. Ce sont des métiers qui bougent et qui changent de façon permanente. Voilà, il faut pas limiter l'acculturation des populations de nos publics au passé maritime, mais il faut bien, si on veut prendre ce conscience de cette identité, de l'intérêt de ce patrimoine pour le futur, se servir de nos outils de médiation, des mises en valeur de patrimoine, etc., pour permettre à la fois aux habitants, aux Normands eux-mêmes, de s'acculturer sur les questions maritimes et au public de prendre conscience de la richesse, au public extérieur, de prendre de la richesse de nos littoraux. Enfin bref, je crois qu'il faut développer un véritable projet patrimonial, en tout cas pour le faire, il faut s'interroger sur l'avenir du littoral normand, puisqu'il pose la question d'ailleurs de l'avenir du patrimoine, et je pense qu'il faut utiliser tous nos potentiels, non pas pour regarder le passé, mais pour construire un futur. Voilà. Et puis ce qui me paraît quand même, là c'est la force des institutions patrimoniales, si les collectivités publiques veulent bien les financer, ben c'est quand même du travail qui se construit sur le temps long, et c'est pas un petit coup, donc il faut unir les forces, et puis ne pas oublier que les questions littorales, ce sera les résiliences permanentes, et donc on pourra, elles seront toujours d'actualité. Voilà, je sais pas, c'était un peu décousu, je suis désolé, mais je sais pas si ça contribuera à la réflexion que j'en ai.